BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir et la situation au Proche-Orient qui a de nouveau suscité un petit peu d'inquiétude ce matin sur les marchés, même si tout cela est retombé très très vite. On va aller bien sûr à Jérusalem dans un instant. On parlera avec nos experts bien sûr qui arrivent dans un quart d'heure de ce que nous a dit Gabriel Attal hier soir, qui a toujours l'ambition de désmicardiser le pays, mais qui... on va en reparler, avance vraiment à pas de loup sur le sujet. On parlera aussi des élections générales en Inde qui viennent de commencer. Narendra Modi est bien passé pour repartir pour 5 ans. Est-ce qu'il peut emmener l'Inde dans le top 3 de l'économie mondiale? On posera la question. On parlera du dossier Biogarant qui est en train de prendre une véritable dimension politique en France. Et puis on parlera des agences de notation Fitch et Moody's qui vont se prononcer vendredi prochain sur la notation de la France. On fera des petits pronos, comme on dit. Vous savez que c'est la tradition désormais dans cette émission. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Votre rendez-vous avec Sage. Sage, la gestion intelligente qui réinvente la finance.
Good Evening Business, le journal.
Donc c'est l'événement international qu'on va suivre dans les prochaines heures, les élections générales en Inde qui ont débuté ce matin. Narendra Modi est bien parti pour un troisième mandat de 5 ans. Il dit vouloir faire de l'Inde plus que la 5e économie mondiale. Marion Zipfel est la correspondante de BFM Business en Asie. Marion Zipfel.
Et si tu appelles directement, il ne peut pas te mettre le retour ?
Alors, Marion Zipfel, qu'on retrouvera dans un instant, je suppose, on va peut-être partir du côté de Jérusalem, peut-être, on va me dire en régie, si nous sommes prêts pour aller du côté de l'Inde ou de Jérusalem. On écoute donc Marion Zipfel depuis l'Asie pour BFM Business, sur l'Inde.
Jamais 203 et Narendra Modi, lui, y croit, porté par une forte popularité au sein de son électorat traditionnel, à savoir les castes supérieures et les milieux d'affaires, et plus particulièrement une poignée de tycoons qui, depuis 10 ans, profitent d'un capitalisme de connivence à l'image des 2 milliardaires emblématiques, Mukesh Ambani et Gautam Adani, deux fidèles de Modi, qui comptent parmi les hommes les plus riches du monde, qui comptent aussi parmi le pourcent de la population indienne qui concentre 40% de la richesse totale du pays. Alors si Modi s'est targué en 10 ans d'avoir sorti 250 millions d'Indiens de la pauvreté, il est avant tout à la tête d'un des pays les plus inégalitaires au monde. Dans son programme présenté dimanche, il a promis qu'il allait créer des emplois sans donner de chiffres précis, augmenter les dépenses publiques, développer les infrastructures, mais sa priorité c'est de doper le secteur manufacturier en misant notamment sur des accords de libre-échange et en s'ouvrant davantage aux investisseurs étrangers. Lundi, Elon Musk est d'ailleurs attendu à New Delhi, il doit annoncer la création d'une usine de voitures électriques. L'appel de Narendra Modi, venez fabriquer en Inde, lancé il y a 10 ans, pourrait peut-être enfin être entendu.
Voilà, 983 millions d'électeurs appelés aux urnes, ça laisse toujours un petit peu rêveur. On en reparlera tout à l'heure, bien sûr, avec nos experts sur BFM Business. À l'étranger, toujours, le petit coup de colère aujourd'hui des pays du G7. Leurs ministres des Affaires étrangères l'ont dit ensemble, les transferts chinois vers la Russie de matériaux et de composants qui lui permettent de renforcer sa production militaire, tout ça fait réagir les ministres que nous sommes. Le G7 fait part, je cite, de sa très forte préoccupation à ce sujet. Dans l'actualité des entreprises, peut-être une grosse acquisition à venir pour Schneider Electric. Le français négocie le rachat d'une société américaine de logiciels qui s'appelle Bentley Systems, qui est valorisée à plus de 16 milliards de dollars. On est dans le domaine de ce qu'on appelle l'industrial tech, c'est-à-dire tous ces dispositifs qui permettent de moderniser les outils de l'industrie traditionnelle d'aujourd'hui. 18h03, tout autre chose, la nuit prochaine va être, à partir d'une heure du matin, une nuit spéciale pour le Bitcoin. C'est la nuit du halving, comme on dit, phénomène qui intervient tous les 4 ans. En quoi est-ce que ça consiste concrètement? Eh bien, Amaury de Tonquédec, qui est notre monsieur crypto, nous explique tout ça en une minute chrono.
Techniquement, rien ne change. Depuis la création des premiers bitcoins en 2009, tous les 210 000 blocs créés, environ tous les 4 ans, la quantité des nouveaux bitcoins émis sur le marché est divisée par 2. À chaque fois, c'est un défi pour les mineurs, car ça signifie que leur coût de production va doubler du jour au lendemain. Ça inquiète visiblement certains investisseurs, parce qu'à l'approche du halving, on observe une chute en bourse des principales sociétés de mining de bitcoin. Le halving est pourtant prévisible. C'est un événement que la plupart des mineurs anticipent. Lors des précédents, certains mineurs ont dû vendre des quantités importantes de bitcoin pour compenser la baisse de leurs revenus, voire cesser temporairement ou définitivement leur activité, ne pouvant se permettre de miner à perte. Cette fois, ça pourrait se passer différemment, puisqu'en début d'année, on a des ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés aux États-Unis. Ça a permis au bitcoin de battre son record historique avant le halving, ce qui n'était jamais arrivé. À ce stade, le cours du bitcoin est donc proportionnellement plus élevé que lors des précédents. Mais comme le résume Pierre Noisa, fondateur et CEO de Paymium, le halving serait aujourd'hui plus un symbole de la rareté dans le monde numérique qu'un événement réellement attendu.
Amaury de Tonquédec et donc la nuit du halving la nuit prochaine pour tous les amateurs de crypto et de bitcoin en particulier. On a eu un petit souci technique, mais on va aller du côté de Jérusalem retrouver Elise Phillips qui est en direct avec nous pour BFM Business. Bonsoir Elise. On rappelle donc plusieurs explosions ce matin signalées très tôt dans le centre de l'Iran. Est-ce qu'il s'agit de représailles israéliennes ? L'armée israélienne a refusé de commenter. Téhéran n'a pas dit un mot non plus à ce sujet d'ailleurs, Élise.
Oui, tout à fait. Aucun des deux pays n'a commenté, n'a réagi de manière officielle. En fait, pour le moment, les seuls qui affirment qu'Israël est derrière cette attaque de drones, ce sont les Américains. Depuis ce matin, les chaînes comme CNN ou CBS rapportent des propos de responsables américains qui affirment que l'État hébreu a mené cette attaque de drones avec 3 explosions, notamment entendues dans la région d'Ispahan cette nuit. Et ces sources indiquent aussi que Israël avait prévenu les États-Unis dès jeudi de ses intentions. Mais à part ça, aucune réaction. Et les Israéliens, sur place, se posent des questions aussi, puisque leur Premier ministre, Benjamin Netanyahou, n'a pas fait de déclaration. Pas de prise de parole non plus du côté de l'armée. Tout à l'heure, un porte-parole de Tzahal me disait au téléphone qu'il n'y aurait pas de commentaire à faire sur la situation. Seul le ministre de la Sécurité intérieure israélien a posté tout à l'heure un message laconique et ironique sur Twitter, indiquant, sous-entendant qu'Israël pourrait être derrière cette attaque. Mais à part ça, le pays ne nie pas, mais ne confirme pas non plus cette attaque. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'Iran non plus n'accuse pas Israël d'avoir visé son sol. D'ailleurs, les autorités ont même nié dans un premier temps qu'une attaque venant d'un pays étranger avait eu lieu la nuit dernière. Donc, c'est une situation assez curieuse. Il faudra peut-être attendre encore quelques heures ou quelques jours pour que l'un des deux pays réagisse de manière officielle suite à cette attaque de drones, la nuit dernière en Israël, en Iran.
Merci beaucoup, Élise Phillips, donc en direct de Jérusalem. Je vous le disais, un petit peu défermé après l'annonce de ces frappes, enfin de ces explosions, tout du moins à quelques heures sur les marchés pétroliers, mais tout ça s'est largement calmé. On verra ça avec Aude Kersulek dans un instant. Les Jeux Olympiques, tout autre chose, on est à 98 jours désormais, et ça y est, on a des entreprises partenaires qui commencent à dévoiler leurs dispositifs pour l'occasion. Carrefour, par exemple, qui sera chargé d'approvisionner le village des athlètes. Carrefour a embarqué des journalistes dans l'une des fermes situées en région parisienne qui va elle-même fournir le distributeur. Reportage de Léo Demas sur place pour BFM Business.
Corvée de patates à la ferme du Voloran, si la météo le permet, c'est ici que vont être plantées les pommes de terre qui doivent nourrir les 15 000 athlètes olympiques et paralympiques. Le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, et Tony Estanguet croisent les doigts.
C'est prévu normalement qu'il fasse beau là pendant 8-10 jours.
D'accord, et donc là vous plantez.
Et là on plante.
On a juste besoin de 18 tonnes.
Oui, c'est rien. Beaucoup...
Non.
Située à une vingtaine de kilomètres du village des athlètes, la ferme fournisseur de Carrefour va profiter du partenariat entre le groupe et Paris 2024, car sur les 170 produits que le distributeur va livrer, 80% doivent être français et 25% ultra local. Un défi logistique qui sera relevé, assure Alexandre Bompard.
En ce moment, on est au travail pour être prêt ce jour-là, pour montrer un peu de la vitrine de la France, pour montrer ce qu'est la ferme France, ce qu'elle produit, sa qualité, ses spécificités, ses variétés. On sera donc au rendez-vous avec nos producteurs amis, les 30 000 producteurs qui travaillent avec nous.
En plus de l'approvisionnement des aliments, cuisinés ensuite par Sodexo, Carrefour va ouvrir un supermarché dans chacun des 3 villages olympiques. Et dans le reste de ses 6 000 magasins en France, le groupe espère tirer ses ventes grâce à l'exclusivité sur les produits dérivés de Paris 2024.
Un reportage de Léo Dumas dans le Val-d'Oise pour BFM Business. Et puis on voulait vous faire écouter le patron d'Adidas, qu'il a un peu mauvaise, comme on dit. Pourquoi ? Parce que le concurrent Nike vient de faire une offre faramineuse pour lui shipper le contrat qui le lie à la sélection allemande de foot, contrat qui a plus de 70 ans. La presse parle, tenez-vous bien, de 100 millions d'euros par an à partir de 2027 et ce pendant 8 ans. Ça laisse le patron d'Adidas un petit peu perplexe. Écoutez.
Il y a beaucoup de fédérations dans le monde et certaines arrivent maintenant sur le marché. La France en est une et nous ferons exactement ce que nous faisons toujours. C'est-à-dire que nous ferons des offres là où c'est dans notre intérêt, à un prix que nous pensons approprié. Et nous n'irons pas au-dessus.
Voilà le patron d'Adidas qui dit d'ailleurs qu'il fera une offre appropriée pour essayer de redevenir l'équipementier de l'équipe de France avec le maillot des Bleus pour l'instant est fourni par Nike. Et ce jusqu'en 2026. 18h09, on va sur les marchés. Les marchés, Aude-Claire Sulek, bonsoir depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Bonsoir. On termine quasiment stable ce soir pour terminer la semaine, Aude.
Oui, moins 0,01%. C'est une semaine quand même, quand on regarde ce qui s'est passé à l'échelle du monde, on peut se contenter d'avoir tenu le coup. Les tensions géopolitiques, même si les événements encore cette nuit, un prêt disparaît, qui reste mesuré, qui reste dans la démonstration de force, l'avertissement ne rassure pour le moment les marchés. Il n'y a pas de tension sur le pétrole pour le moment. Non, on baisse largement cette semaine, notamment du côté des États-Unis, sur le changement de discours des banquiers centraux américains, sur l'inflation qui dure, les baisses de taux qui se retarde et même un gouverneur qui a évoqué ces dernières 24 heures, tenez-vous bien, une hausse de taux peut-être d'ici la fin de l'année. Les marchés obligataires s'ajustent à la hausse et ça tend. Les indices américains, on est encore largement en baisse cet après-midi. Le Nasdaq qui perd 1,5%. Donc finalement, ce bilan d'un CAC à l'équilibre, c'est plutôt positif. On reste à flot au chapitre des valeurs. Aujourd'hui, en plus, on a eu une star sur le CAC 40. C'est L'Oréal après sa publication de chiffre d'affaires hier. Ça a été largement bien accueilli, hein, cette confirmation d'objectif annuel, plus 5% pour la valeur, 444 euros. En revanche, un titre qui a violemment décroché cet après-midi, jusqu'à moins 10%, hein, c'est Edenred. Et ça, ce serait dû à un nouveau développement dans une enquête en cours en Italie, hein, concernant une possible fraude sur un appel d'offres. Le rappel de cette histoire, d'ailleurs, c'est sur le site de BFM Business, un article de Julien Marion. En tout cas, on a fini en baisse de moins 6,8% pour Edenred et donc le CAC 40 qui a lui préservé les 8000 points en fin de semaine à 8022 points.
Merci beaucoup Aude-Claire Sulek, donc Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Il n'y a pas vraiment de tendance à la mi-séance. Le Dow Jones qui grappille 0,3%. On est à 37 905 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui lui a beaucoup de mal. Il perd 1,2%. 15 410 points, tout ça à la mi-séance. Une information pratique, comme on dit, avant de faire une petite pause. Vous savez peut-être, d'ailleurs ça se trouve vous êtes en plein dedans, que la circulation est toujours interrompue ce soir dans les deux sens sur l'autoroute A13 entre Vaucresson et le périphérique parisien pour une durée indéterminée, disait encore tout à l'heure Bison Futé. Si vous aviez prévu de l'emprunter ou si vous y êtes déjà, il vous est recommandé de dévier soit par la 12, soit par la N12 ou bien la N118. Allez, courage camarades. 18h12, nous on revient avec nos experts dans un instant, on a beaucoup de choses à voir. Les premières agences de notation qui vont causer vendredi prochain, on fait un petit pronostic comme on dit. On parlera de Gabriel Attal qui veut toujours démicardiser la France mais qui ne dit pas vraiment comment il veut faire. Et puis Narendra Modi, a priori 50 plus à la tête de l'Inde, peut-il porter le pays dans le top 3 mondial de l'économie mondiale? On posera la question. Et bien d'autres bien sûr jusqu'à 19h, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h15, ils sont là, nos experts, jusqu'à 19h pour refaire l'actu comme tous les soirs. Xavier Patrolin est avec nous. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Guillaume.
Président d'Albatros Capital. Samuel Botton est avec nous. Samuel, bonsoir. Expert en communication. Puis Pascal Delima, économiste, est avec nous. Pascal, bonsoir. Bienvenue. Alors, j'ai vendu à nos auditeurs, téléspectateurs, internautes, messieurs, le petit sondage qu'on va faire toute la semaine. Hein. Je vous le dis tout de suite, entre nous, avec nos différents experts, c'est Fitch et Moody's parlent vendredi prochain, 22h, hein, après la clôture des marchés, pour se prononcer sur la dette de la France. Maintien de la note, dégradation, allez, pronos comme ça, très vite. Samuel, qu'est-ce que vous voyez, vous?
Maintien, légère dégradation, tout au plus, mais finalement...
Ah, c'est la même chose. Maintien ou légère dégradation?
Légère dégradation, très légère pour le principe et pour la forme. Après, j'ai pas forcément raison, ni la science infuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, jusqu'où ça peut aller dans la dégradation, et quel impact ça peut avoir d'un point de vue politique, ce qui pourrait nous amener totalement à un remaniement d'ici septembre. Pas avant, mais un remaniement. Et est-ce que Bruno Le Maire sera encore là à ce moment-là?
C'est la grande question, évidemment. Xavier, en quelques mots.
Bah, il faut distinguer les deux agences. Fitch a déjà dégradé l'année dernière, donc a priori maintien. Et Moody's va s'aligner sur Fitch, donc dégradera.
Moody's pèse un peu plus que Fitch.
Pardon ?
Moody's pèse un peu plus que Fitch.
Oui, oui,
Standard
tout à fait.
Poor's, bien sûr.
Après, ce qui compte, c'est l'argumentaire.
Oui.
L'argumentaire de Fitch l'année dernière portait, c'était post-réforme des retraites et portait sur le caractère d'instabilité politique et sociale en France, qui allait handicaper la conduite des réformes. Je pense que le raisonnement reste valide. Entre-temps, on a eu quelques carburants additionnels sur la situation budgétaire de 2023, l'amplitude du déficit budgétaire, et surtout le plan de stabilité qui a été présenté en début de semaine et qui, de l'avis de quasiment unanimement, à l'exception des ministre, est jugé comme, sans être insincère, peu cohérent et peu logique, si je reprends les propos du premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il y a des incompatibilités.
Moody's qui s'alignerait sur Fitch, voilà ce que vous nous dites. Pascal, en quelques mots, qu'est-ce que vous dites?
Oui, en quelques mots, tout à fait d'accord avec un alignement de Moody's sur Fitch aussi, avec un abaissement de la note de Moody's pour deux raisons principales. La première, c'est qu'effectivement, déjà l'année dernière, il y avait eu un certain nombre de promesses de réformes et que la trajectoire budgétaire ne s'est pas améliorée, qu'il y a eu effectivement... Tout ça était toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, même s'il y a une dégradation effective, on reste quand même sur des niveaux de notation élevés. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il faut aussi un petit peu de transparence, de modélisation objective, de constat objectif aussi par rapport à nos partenaires européens qui sont dans des situations de notation pire alors qu'ils ont des finances publiques un peu meilleures parfois. Donc je dirais, voilà, deux principales raisons.
Très bien, tout ça est enregistré. Nous, on en parle parce qu'on a vu Bruno Le Maire s'agiter encore beaucoup cette semaine et que ça va forcément être le cas la semaine prochaine jusqu'à la décision finale qui tombera, donc vous le disiez, vendredi prochain, un petit peu après 22h, la fermeture des marchés américains. On suivra ça. Gabriel Attal, hier soir sur BFM TV, il a passé notamment 20 minutes face à notre Nicolas Dose national. Il a reparlé d'un sujet qu'il a mis sur la table, vous savez, il y a déjà un certain temps. Alors, est-ce qu'il en a reparlé en écho au propos du patron de Michelin, vous savez, sur le SMIC? Lui entend, du coup, il le répète, Gabriel Attal, désmicardiser le pays. Sauf que pour l'instant, il ne dit pas comment. Écoutez.
Dans les chantiers que j'ai annoncés comme prioritaires pour mon action, il y a ce que j'ai appelé la désmicardisation. On a en France un SMIC qui est parmi les plus hauts d'Europe. La différence qu'on a avec les autres pays européens, c'est qu'on a beaucoup plus de gens qui ont un salaire proche du SMIC. Quand un employeur veut augmenter de 100 euros quelqu'un qui est au SMIC, ça lui coûte 300 voire 400 euros. Ce sur quoi je travaille, pour des annonces dans les prochains mois, c'est un système qui fasse que ça coûte moins cher au patron, aux salariés, d'augmenter le salaire, surtout quand on est proche du SMIC.
Bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces exonérations patronales, finalement? En quelques mots, de manière très concrète, Pascal de Lima, finalement. Il dit, je vais m'attaquer à ce système, je vais m'attaquer à ces exonérations. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, surtout?
Il y a trois leviers. Effectivement, le premier levier, c'est, comme ça a été dit, le fait d'augmenter simplement de 100 euros le SMIC fait qu'on arrive sur une autre tranche de revenus. Et ce passage-là impacte systématiquement les charges patronales,
euros,
les charges sociales. Il y a aussi des prestations auxquelles vous n'avez pas le droit. La prime d'activité, par exemple, vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu aussi dès que vous changez de tranche de revenu. Donc le SMIC a un gros avantage quelque part, d'une certaine façon. Et donc il faut pallier à cet effet de seuil-là. Ça, c'est le premier volet. Et puis le deuxième volet, c'est la formation. Parce qu'évidemment, même si vous augmentez votre revenu, vous devez avoir de la productivité en entreprise. Et donc il faut aussi former pour pouvoir avoir accès aux métiers un peu plus qualifiés. Et puis le troisième volet, parce que finalement, si les métiers ne sont pas là, c'est les réformes, ça c'est du plus long terme, c'est les réformes purement structurelles, l'apparition de nouveaux secteurs d'activité, la transformation économique et numérique. Donc c'est la désmicardisation, pour moi, c'est un projet de très long terme.
Moi, je voudrais juste rappeler au Premier ministre que le SMIC, c'est avant tout un acquis social, c'est quelque chose qui a été créé pour pouvoir permettre à chacun... Initialement, de vivre décemment, forcément, la situation du pays au fil des années et de l'économie s'est dégradée et aujourd'hui, c'est devenu un marqueur social presque péjoratif dans la manière dont il présente. Et alors, désmicardiser la France et parler de l'exonération des cotisations patronales, c'est bien, mais j'ai l'impression que c'est systématiquement le levier qui est mis en avant sans avoir d'avancée concrète derrière. Après, sur le SMIC, écoutez, j'ai vu une idée, moi, qui m'a beaucoup plu, mais à laquelle le Premier ministre ne semble pas être favorable. C'est un SMIC par région, en fonction du niveau de vie. Et ça, pour le coup, c'est dans tout ce marasme idéologique la première bonne pensée un peu sensée qui me semble avoir vue. Donc voilà, un salaire décent en France, qu'est-ce que c'est pour la population? Et selon le baromètre du DRES, c'est 1900 euros. Aujourd'hui, on en est loin, on est aux alentours de 1400.
Oui.
Il y a quand même eu des progrès, hein, oui. Puisqu'en 2018, on était à 1284 euros à peu près. Donc voilà, des smicardisés à France, c'est une très belle formule. C'est peut-être même la formule la plus macroniste que j'ai entendue sur les trois dernières années. Mais aujourd'hui, c'est du vide. C'est nous expliquer qu'on va mener une négociation avec avec les patrons pour essayer d'arriver à quelque chose de plus sensé. Mais je suis pas sûr qu'eux, de leur côté, soient très enclins à écouter les directives du gouvernement. Donc voilà, un jeu de dupes, un dialogue de sourds et une formule que je trouve relativement archaïque et péjorative.
C'est pas s'enfermer dans un système inextricable, Xavier Patrolin, finalement, de vouloir désmicardiser la France comme ça. Enfin, c'est, comme disait Pascal, c'est un projet de très long terme. Voilà, je vous pas dire pas désagréable, il y a des élections en 3 ans quand même, mine de rien.
Surtout il y a des élections dans 2 mois.
Il y a des élections en 2 mois, déjà pour commencer.
Je suis pas sûr que le Premier ministre passe nécessairement la haie du 9 juin. On en reparlera. parce que peut-être que les 100 jours précèdent la Bérésina, là, ce qui est l'inverse de la situation historique. Ce que je crois, c'est que, au fond, ce thème de la smicardisation des salariés, c'est plutôt à l'adresse de ce qu'on appelle communément un discours convenu pour la classe moyenne. Mais la smicardisation, au fond, ça a comme révélateur la perte de valeur ajoutée de l'économie française. Mmh. Si vous avez une économie... Ce débat n'existe quasiment pas, ou sous une forme différente, par exemple, chez nos voisins d'Outre-Rhin. Ils avaient des jobs à 1 euro, ouais. Mais globalement, ils ont une base industrielle. Une base industrielle, ça veut dire des salariés qui sont hautement rémunérés. La déclaration du patron de Michelin, elle n'est pas tout à fait anodine. Vous en avez parlé hier soir sur ce plateau. Ouais. Mais au fond, au-delà du jugement qu'on peut avoir, c'est un industriel qui parle. Et pourquoi cet industriel se préoccupe du salaire décent? Parce que justement, c'est un industriel et qu'il a des salariés à haute valeur ajoutée.
Et qu'il a besoin d'en attirer d'autres.
Et voilà. Et c'est beaucoup moins le cas dans les services. Donc si vous avez une dominante de services à faible valeur ajoutée, c'est notre problème depuis 3 décennies. Au fond, on a substitué une base industrielle qui est partie, qui représentait un peu plus de 20% du produit intérieur brut aux alentours de 10. Donc on a perdu 1,5 million à 2 millions de salariés. Et on leur a substitué principalement des chômeurs dans une première décennie. Et puis là, depuis quelque temps, on leur substitue des travaux dans des services. Mais bon, prenez les gars qui livrent les Uber Eats à coups de scooter. Alors c'est des auto-entrepreneurs, c'est pas nécessairement des smicards, mais ils ont un faible revenu. Et la valeur ajoutée, elle est située où? Prenons ce cas, puisque c'est un cas intéressant. La valeur ajoutée, elle est située où? Évidemment, il y a une utilité sociale. Mais la valeur ajoutée, elle est aux États-Unis. Elle est située au niveau de la plateforme, numérique qui capte quasiment l'intégralité de la valeur ajoutée. Donc le problème pour désmicardiser la base de salariés française, c'est réintroduire de la valeur ajoutée de l'économie dans l'économie française. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un processus de très long terme. Donc on peut ce qu'on est en train de vous proposer là, c'est une désmicardisation en net, en attaquant le brut, et en attaquant le brut, vous détricotez le contrat social. Donc quand vous détricotez le contrat social, que vous privez de revenus, c'est-à-dire on va supprimer toute une série de cotisations, ces cotisations vont mettre en déficit et vont obliger à ajuster les prestations sociales qui affairent à ces cotisations. Et donc vous détricotez le modèle social de manière implicite, c'est ce qu'on fait depuis une quinzaine d'années, et ça provoque un climat, je trouve, délétère, parce qu'il est fait de manière non affirmée. On fait ce nettoyage et donc ça, c'est, je trouve, en termes de responsabilité politique, je trouve que c'est une très mauvaise approche.
Samuel Botton, un mot là-dessus, et puis Pascal après.
Il faudra juste aussi remettre en perspective la question du rapport au travail des Français sur les dernières années.
Oui.
Et aujourd'hui, voilà, c'est il y a quelque chose, pour reprendre le terme de Xavier, qui se détricote de ce point de vue-là. Essayer de les ramener aussi vers l'emploi, et je suis pas sûr que ce soit fait de la bonne manière, parce que on est rentré dans une logique d'oppression vis-à-vis de France Travail, vis-à-vis des chômeurs, et je suis pas sûr que ce soit non plus la bonne méthode. Donc en fait, on est vraiment dans une grande politique de stigmatisation où on pointe du doigt. On évoque des débuts de solutions, mais les problèmes sont toujours les mêmes. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, demain, recruter quelqu'un, augmenter quelqu'un, sortir un salaire à l'heure actuelle, entre ce que je paye au total et ce que le salarié va retrouver sur sa fiche de paye, il y a des gaps qui sont immenses. Donc il serait peut-être temps, effectivement, de faire en sorte que le SMIC et les revenus suivent la courbe de l'inflation, mais ça sera
le sujet d'après. Puisque vous parlez de France Travail, ce chiffre que nous a donné France Travail, qui nous dit que près des 2/3 des chômeurs contrôlés l'an dernier, 65% étaient en recherche active d'emploi, 18% ont besoin d'être redynamisés. Seulement 17% ont été sanctionnés pour recherche insuffisante. Le chiffre que nous a donné France Travail tout à l'heure, il y a quelques minutes. Voilà. Oui, Pascal, pour terminer là-dessus.
Oui, non, ça révèle l'importance aussi de la reconnaissance sociale à travers la valeur travail. Ouais, et que les chômeurs ne sont pas tous des gens. Voilà, on a même compris l'idée. Et qu'effectivement, on avait déjà ces études-là il y a un certain temps, où on voyait très très bien qu'il y avait la reconnaissance, le self-respect, comme le disent les sociaux-démocrates américains, passe par le marché du travail. Et qu'aujourd'hui, il y a aussi un enjeu sur la smicardisation, parce qu'on veut éviter effectivement qu'il y ait une société, un petit peu une sorte de trappe à pauvreté autour du SMIC. Il faut créer les métiers de demain, il faut créer de la croissance, et donc il faut former.
80% des demandeurs d'emploi sont au niveau du SMIC, il faut le rappeler aujourd'hui en France.
Tout à fait, et ce qui est inquiétant, c'est que ça a augmenté, ça a doublé aussi en très très peu de temps. 3 millions aujourd'hui en France, 17% de la population au travail, population active. Donc ce sont des chiffres qui ont doublé en assez peu de temps. Comme tout le temps en économie, le SMIC peut être aussi une référence pour les personnes très très peu qualifiées et donc qui pourraient, pour avoir des contrats un peu à long terme, à durée indéterminée, se référer au SMIC pour être recruté. C'est aussi un moyen, je dirais, de limiter l'extrême pauvreté si on veut voir une antithèse un peu.
On a 2-3 minutes avant la pause pour vous demander comment est-ce que vous regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, série d'explosions enregistrées du côté du centre de l'Iran ce matin. L'armée israélienne dément pour l'instant, enfin ne fait pas de commentaires sur le fait de savoir si elle en est responsable. L'Iran non plus d'ailleurs ne fait pas de commentaires. Il y a eu une petite poussée de fièvre ce matin sur les... Comment ?
Vous avez votre réponse.
Pourquoi j'ai ma réponse ?
Le fait qu'aucun des deux ne fasse de commentaires, je pense que c'est...
Qui ne dit mot consent, c'est ça ? Je ne sais pas.
Voilà, qui ne dit mot consent d'une part, et alors je vais vulgariser... Aucun commentaire. Vulgariser, c'est le concours de celui qui pisse le plus loin, mais de celui qui vise le plus mal. Bon, donc l'idée, c'est de faire peur, et surtout de ne pas toucher de base stratégique.
Pour l'instant...
C'est exactement ce qui s'est passé des deux côtés. Israël est dans une politique de dissuasion, parce qu'effectivement, il y a eu des graves manqués sur les derniers mois, voire les dernières années, qui ont mené à la situation du 7 octobre. Donc aujourd'hui, ils sont dans une position où eux se disent qu'ils ne peuvent plus rien laisser passer. Bon, l'Iran a revendiqué la première attaque très bien. Il y a eu une réponse. Aujourd'hui, tout le monde appelle à ce qu'on n'aille pas dans l'escalade. Donc voilà, c'est assez clair. J'ose espérer que le débat est clos là-dessus. On verra ce qui se passe.
Bon, médias américains, en tout cas, apportent...
En tout cas, les marchés l'ont intégré.
Mais oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que ce matin, ça s'est encore un petit peu affolé temporairement, 3-4% de hausse sur les prix du pétrole. Et puis tout ça est redescendu une nouvelle fois, parce que apparemment, depuis le début de cette semaine, depuis le début de cette séquence, les marchés ne croient pas à une escalade, très clairement, Pascal. Enfin,
Non, on ne croit pas en une escalade, parce que l'escalade supposerait sanctions, sanctions économiques vers l'Iran, c'est un peu étrange, puisque l'essentiel des exportations de l'or noir va vers la Chine, vers des indépendants pétroliers chinois, et que par conséquent, ces sanctions seraient inefficaces. Donc les marchés savent bien tout ça. Mais finalement, quelque part, escalade, sanctions, a peu de chances de se produire, je le crois. Et puis en plus, sans parler des impacts tout à fait mondiaux sur les prix du pétrole, on sort d'une guerre en Ukraine, n'est-ce pas, qui n'est pas finie d'ailleurs. Et donc, il faudrait éviter qu'on ait des effets un peu couperets comme ça, qui entraîneraient une hausse des prix et une nouvelle inflation.
D'accord avec ça, Xavier. Personne n'intéresse à l'escalade. On le disait, léger échauffouré sur les prix du pétrole, c'est redescendu, appel à la retenue aujourd'hui de la communauté internationale, y compris du chef de la diplomatie russe, Lavrov, aujourd'hui. Est-ce que vraiment personne n'a intérêt à ce que ça dégénère ?
Non, c'est pas parce que personne, c'est pas parce que personne n'a intérêt que ça ne peut pas se passer. Je pense que si on reprend la séquence depuis samedi, on pourrait la reprendre depuis le 7 octobre, on a quand même un début de généralisation de la conflictualité. Ce qui s'est passé samedi est quand même, je pense qu'on mettra pas mal de temps à l'analyser, parce qu'il y a ce que l'on sait, nous, mais ce que... On ne sait que peut-être que 80% des informations, le 20% qu'on connaît pas, je peux vous assurer que les initiés le connaissent, et à mon avis c'est plus sérieux qu'il n'y paraît. Ce qu'a fait l'Iran samedi est une opération hors norme, et donc c'est une démonstration de force qui avait probablement pour objet de ne pas faire de blessés, mais c'est une démonstration de force. Et ce que vient de faire d'une certaine façon Israël ce matin, c'est un signalement stratégique. Reprenons très très, je suis pas un grand militaire évidemment, même si j'ai fait mon service militaire dans la marine, mais ce qu'ils ont fait, ils ont tapé à l'intérieur du territoire iranien une base aérienne. Alors les Iraniens pour l'instant, ils n'ont pas revendiqué Israël, mais ils ont tapé à l'intérieur du territoire israélien avec des missiles tirés probablement à partir de drones et de F-35.
C'est ce que révèle la presse américaine. Voilà. Relaye la presse américaine.
Cette base aérienne est à Ispahan et à la supervision de la défense aérienne de deux centres nucléaires essentiels. Donc ça veut déjà première dire que les systèmes anti-aériens n'ont pas fonctionné, à l'inverse du dôme de fer. Et deuxièmement, ils ont donc probablement signifié au Pasdaran, aux gardiens de la Révolution, qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir véritablement défendre. Et donc ça veut dire la conséquence que ça a, ça veut dire que le clergé iranien, parce qu'au fond il y a deux pouvoirs, en, je fais une analyse vraiment de comptoir, mais il y a deux pouvoirs en Iran, il y a les Pazarans, les gardiens de la révolution, l'armée, le complexe militaro-industriel, si je dis iranien, et puis il y a le clergé. Et le clergé iranien a la haute main sur le développement nucléaire. Bah, la conséquence de ce qui vient de se passer en une semaine, c'est l'accélération. C'est-à-dire que si vous avez voulu motiver le clergé iranien à accélérer le processus d'avancer vers l'arme nucléaire, ça vient de se passer en une semaine. Les Israéliens, à l'inverse, le savent. Et donc, on est en train de voir monter une rivalité régionale entre deux puissances, Israël et l'Iran. Moi, je ne sais pas comment ça évoluera. Si on prend l'oncle Sam, les États-Unis ont joué un rôle clé samedi dernier. On a vanté les mérites du Dôme de Fer. On peut considérer qu'il a joué un rôle très efficace. Mais s'il n'y a eu pas la défense aérienne américaine, l'US Air Force, au-dessus du territoire syrien et irakien pour arrêter l'essentiel des drones, peut-être que l'histoire aurait été différente. Donc la défense de la sécurité aérienne israélienne a été prise en charge partiellement, oui. Et ça c'est un fait sans précédent, par les États-Unis. Et donc ça a des conséquences de moyen terme. Pour l'instant c'est un apaisement probablement, mais je suis pas sûr que la séquence se déroule aussi paisiblement dans les mois à venir.
En tout cas cette séquence pour l'instant laisse les marchés relativement de marre. Pour l'instant en tout cas.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h37, on est reparti avec nos experts jusqu'à 19h en direct. Pascal Delima est toujours avec nous, Samuel Botton également, Xavier Patrelin également. Alors on voulait dire un petit mot de l'Inde parce que vous savez qu'il y a les élections générales là-bas qui ont débuté ce matin. 968 millions d'Indiens appelés aux urnes. Voilà, ça fait toujours rêver ce chiffre astronomique. Il n'y a pas trop de suspense a priori. Narendra Modi devrait faire un troisième mandat. Bonsoir Camille Bourg. Rappelons que en moyenne, sur les 10 dernières années au cours desquelles Modi était au pouvoir, l'Inde a fait 4,3% de croissance par an en moyenne, c'est ça Camille hein ?
Effectivement Guillaume, l'Inde est aussi devenue la cinquième économie mondiale, doublant la France et l'Angleterre en 2019. Sa plus grosse réforme, la démonétisation de 2016, il retire de la circulation les billets de 500 et 1000 roupies pour lutter contre la corruption et l'économie informelle. Narendra Modi, c'est aussi une tendance protectionniste. En 2014, il lance le plan Make in India qui subventionne l'industrie indienne. En 10 ans, il fait passer les tarifs douaniers de 7 à 18%. En parallèle, le gouvernement pro-business a largement investi dans les infrastructures. 74 aéroports ont par exemple été mis en service en 10 ans. Résultat, les investissements étrangers sont passés de plus de 28 milliards de dollars en 2013 à plus de 46 milliards de dollars en 2023. Mais tout n'est pas rose. Le taux de chômage en Inde a atteint 8,3% en décembre 2023, son plus haut niveau depuis 45 ans. Un chômage particulièrement élevé chez les jeunes de moins de 25 ans, puisque 45% d'entre eux n'ont pas d'emploi.
Merci beaucoup Camille Bourg avec nous ce soir sur BFM Business. Il y a une espèce de storytelling depuis des années qui consiste à dire l'Inde sera la future Chine, il va y avoir une bascule industrielle de la Chine vers l'Inde. Voilà, l'atelier du monde, ça sera plus la Chine demain vers l'Inde. On a l'impression que l'histoire n'est pas faite comme ça en fait, que c'est pas vraiment comme ça que les choses vont se passer. Hein. Pascal, comment est-ce que vous regardez
ça? Non, parce que chaque pays a son avantage comparatif. Hein. On connaît très bien les nouvelles technologies en Inde, les plateformes d'externalisation qui ont fait un énorme succès dans les années 80, 90, avec une vraie volonté de s'industrialiser, de développer aussi le secteur du service beaucoup plus récemment, donc de sortir un peu de ce modèle un peu traditionnel d'externalisation de services à bas coût, en particulier dans l'informatique. Et aujourd'hui, on voit émerger une industrie automobile, on voit émerger une industrie culturelle importante, on voit émerger tous les tissus traditionnels, je dirais, d'une économie occidentale. Ça marche plutôt pas mal maintenant. Effectivement, lorsque on a ce boom économique et qu'il n'y a pas en face un État-providence qui est capable de protéger finalement les plus faibles, où il y a une corruption importante. Alors il y a des mesures qui ont été réalisées depuis 10 ans, et ça c'est très bien. Il y a quand même un problème d'inégalité, il y a quand même un problème de soutenabilité sociale du modèle, si vous voulez. Parce que là, par contre, on est dans une démographie, on est dans des problèmes d'extrême pauvreté, de très fortes inégalités, même si l'Inde en elle-même a rattrapé un certain nombre de pays occidentaux en termes de, en tout cas de PIB en valeur.
Cinquième économie mondiale, ils sont passés devant
l'Inde, il y a encore beaucoup de travail en termes de protection sociale, en termes de trajectoire, on va dire, compatible en fonction des différentes catégories de la population. Il y a encore beaucoup de questions. Évidemment, le chômage jeune explose.
Et le chômage des jeunes, Camille nous le rappelait, qui a explosé. Samuel Botton sur...
Je vais laisser le terrain politique à Xavier, Pascal, qui feront ça très bien. Je vais essayer de m'attarder un peu sur le volet idéologique. L'Inde, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Ouais, c'est le cas depuis 10 ans. C'est le 162e pays au classement de Reporters sans
frontières. Je ne fais pas de politique, je fais que de l'économie. Hein.
Voilà, non, c'est pour ça, moi, j'essaye de...
Non, mais il y a bien sûr cette dimension dont
vous avez une meilleure analyse que moi sur le...
Cette dimension dont on ne peut pas ne pas parler, évidemment.
Et ça, il faut en parler, parce que voilà, d'une part, on est sur un projet qui est ultranationalisme, l'état de droit qui est en voie de disparition. Soyons clairs, Modi gagnera probablement l'élection qui arrive, mais en dehors de ça, c'est ce que vous avez dit, ce qu'a dit Camille également, c'est-à-dire sur les personnes qui sont réellement dans un besoin d'accompagnement de l'État, elles ont été abandonnées. Et encore une fois, sur d'un point de vue social et sociétal, il y a la question du sort des musulmans en Inde qui sont très clairement qualifiés de sous-citoyens, eux, comme d'autres.
Bien sûr.
Il y a cette politique de centralisation qui, à mon avis, à un moment, va avoir un revers de la médaille, parce que affaiblir les régions, c'est toujours une erreur dramatique. Ça l'a été chez nous, ça le sera là-bas aussi. Et puis, après, voilà, cette question du chômage record, le plus gros score depuis 1945. Il y a 800 millions d'Indiens qui sont concernés par l'aide alimentaire. On en a appelé 968 millions à aller voter. J'imagine que dans les 800 millions, il y a des enfants également, et tous ne sont pas votants. Mmh. Mais voilà, on est sur une situation qui est loin d'être idyllique. Être cinquième puissance mondiale, oui, mais ça dépend dans quelles conditions, comment, et ce qu'il advient des personnes qui vivent dans le pays. Aujourd'hui, je pense que les conditions sont loin d'être réunies. Et d'un point de vue humain, on pourrait aller au-devant de graves déconvenues.
Ouais. Xavier, est-ce que l'histoire selon laquelle l'Inde serait la nouvelle Chine, est-ce que c'est une histoire qu'il faut gommer? Est-ce qu'il faut tourner le dos à cette idée? Est-ce que la Chine, est-ce que l'Inde va pâtir, va bénéficier des difficultés structurelles de la Chine, finalement, dans les prochaines années?
Sur tout raisonnement, il faut l'adosser sur ce qui est les tendances déterministes. La première tendance déterministe, c'est la démographie. La démographie, il n'y a absolument pas photo. L'Inde sera la première puissance démographique au monde dans une trentaine d'années. Mmh. Donc, ils seront à 1 milliard 300 millions, 400, 500, 600 millions, tandis que la Chine sera déclinant. Et à la fin du siècle, la Chine sera aux alentours de 700, 800 millions. Et l'Inde sera, je sais pas, les dernières simulations, mais ils seront à 1,6 milliard ou quelque chose comme ça. Ça n'empêche qu'en termes de revenus par habitant, le rapport entre la Chine et l'Inde est dans un rapport de 1 à 10. Vous êtes là, un revenu par habitant en Inde de $2,000, un peu plus de $2,000. En Chine, vous êtes aux alentours de $25,000. Mais en Chine, vous avez deux Chines. Vous avez 600 millions qui ont un revenu...
La Chine des villes et la Chine des campagnes.
Voilà, 600 millions qui ont un revenu à $45,000, $50,000. Et puis vous avez le reste qui a un revenu de $1 à $2 par jour. Donc, moi, je trouve dans le modèle de développement de la Chine, je trouve plus équilibré. Pour moi, ça reste une démocratie. Alors, même si c'est un régime autoritaire, même s'il y a une tendance fascisante dans le régime actuel, si je devais choisir, je préférerais ça au régime de l'Empire du Milieu actuellement. Deuxième dimension qui est importante, c'est qu'ils ont une espèce de frugalité dans leur développement, justement parce qu'ils ont des ressources relativement limitées. C'est un pays qui a, si on devait comparer, si on fait une comparaison Chine-Inde, la Chine accumule des excédents commerciaux, ce qui n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde a des déficits commerciaux, a des déficits de sa balance des paiements, un endettement qui est, pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que le ratio dette sur PIB est relativement stable depuis une vingtaine d'années. Si vous regardez celui de la Chine, il est en train de se dégrader tendanciellement, et la crise immobilière plus la crise démographique va amplifier ce phénomène. Et dernier point, ils ont des financements vis-à-vis de l'épargne mondiale qui sont pas du tout comparables à ceux de la Chine. Donc ils peuvent avoir bénéficié à moyen terme. Et pour les acteurs occidentaux, La Chine est indispensable parce que dans la volonté de containment, c'est-à-dire de contenir l'empire du milieu dans le moyen terme, la Chine joue un rôle pivot. Et tu auras noté qu'ils sont à la fois BRICS et pas BRICS. Oui, et d'une certaine façon, ils ont une espèce de relation du
statut un peu ambivalent. Ambivalent.
Mais tu noteras que chez tous les Occidentaux, quels que soient les jugements qu'on peut avoir sur le régime politique, tous les de la France aux États-Unis, sans passer par la Russie, tous les pays occidentaux ont un rapport extrêmement protégé, favorable, parce que c'est un élément clé. Donc moi, je trouve qu'au contraire, la dynamique, les potentiels, si on met potentiel démographique, faible revenu à aujourd'hui, mais la dynamique va se construire, frugalité dans les choix sectoriel. La Chine a voulu être, l'arrière-cour industriel du monde occidental. C'est pas du tout la stratégie indienne. La stratégie indienne se place par rapport, je pense, parce que eux, ils sont vraiment impactés par le réchauffement climatique. Le risque climatique, ils sont très exposés. On le voit notamment pour la filière agricole. Hein, ils sont probablement plus exposés que la Chine aujourd'hui, hein, de ce point de vue-là. Et donc, ils sont plus sensibles. La frugalité, le développement qu'ils ont fait notamment dans le spatial est très original.
Oui, oui, oui.
Ils ont un développement à faible coût, avec faiblement de moyens. Alors, ils arrivent à faire des choses très astucieuses. Et enfin, bon, tu sais peut-être pas, mais j'ai fait un peu de mathématiques dans mon jeune âge. J'ai eu une profonde admiration pour l'école mathématique indienne.
Le cœur des SS2I bat.
Et voilà. Et donc, ça, je pense que dans l'économie numérique qui est chère à Pascal, je trouve qu'ils pourront jouer un rôle très, très significatif.
Pascal, encore un petit mot là-dessus, non?
Et puis, oui, pour dire un rôle significatif et trouver un juste équilibre entre cette volonté aussi protectionniste qui existe en Inde, à travers ce subventionnement de l'économie nationale en particulier, et des droits douanes qui sont colossaux. Et sa dépendance externe, qui elle aussi est importante. Donc là aussi, on a encore un équilibre à trouver pour gagner en croissance économique. Mais certainement que l'Inde fera partie d'un des fleurons de l'économie numérique et des innovations disruptives pour les métiers de demain.
Je ne sais pas quand on connaîtra les résultats de ces élections. Ça prend beaucoup de temps.
Six semaines.
Le temps de débrouiller.
Juste une petite observation. tu as mentionné le nombre d'électeurs.
938 millions d'Indiens.
Tu aurais dû croiser avec le nombre de députés de la Chambre basse.
Ils sont quelques centaines, je crois.
540.
Oui.
Combien il y a de députés en France?
522.
577 de mémoire.
Voilà. Combien d'électeurs?
Pour combien d'électeurs?
Eh bien, pour 15 fois moins.
Oui, c'est ça.
Il y a
oui.
le même nombre quasiment de députés pour 15 fois plus d'électeurs. C'est juste une observation de règle de 3.
C'est la France. Bien, ben justement, on va redire un petit mot de la France avant vos avis dans quelques minutes, parce que c'est le dossier entreprise que le gouvernement regarde avec beaucoup d'intérêt et aussi d'inquiétude, le dossier Biogarant. Géant français du numérique. Parce que vous savez, on entend dire que la maison mère Servier pourrait vendre à un groupe étranger. On est clairement sur des enjeux de souveraineté, disait Roland Lescure ce matin, le ministre de l'Industrie, qui n'est pas très chaud, lui, pour cette vente. Écoutez.
Aujourd'hui, l'amoxicilline générique, le doliprane générique, l'ibuprofène générique, tout ça, c'est fabriqué en France pour Biogarant et vendu en France dans les pharmacies. Donc, à la fois l'approvisionnement et la production doivent être assurés. La question, c'est pas est-ce que l'acheteur, il est indien ou canadien.
Donc juste, Roland Lescure, qu'on soit clair, vous ne bloquerez pas par principe si un acheteur étranger, indien notamment, veut racheter Biogarant?
On a ce qu'on appelle la procédure investissement étranger en France qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais la question aujourd'hui, elle ne se pose pas dans ces termes. La question, c'est est-ce qu'on aura des médicaments en France et est-ce qu'ils seront produits en France? Hier, j'étais dans la Sarthe. Vous savez ce que c'est, ça?
Vous brandissez une paire de gants.
Ce sont des gants chirurgicaux faits dans la Sarthe. Ça fait 30 ans qu'on ne faisait plus de gants en Europe. Depuis hier, on fait des gants made in France. Et vous savez quoi? C'est un investisseur canadien qui va les fabriquer.
Voilà, on fait des gants. Et alors, je rappelle, bon, c'est Biogarant, c'est 8000 salariés dans 39 usines. Hein. Biogarant plus sous-traitance, voilà. Donc, enjeu de souveraineté, enjeu industriel, évidemment, dans cette histoire, Samuel. Hein,
surtout, il y a, je pense que Roland Lescure voit venir le risque des discours de l'opposition.
Oui.
On sort d'une grosse séquence où a été fustigée l'absence de médicaments en pharmacie, des traitements qui n'étaient pas disponibles. Et aujourd'hui, ça nous remet de plein pied dans cette question. Après, il y a une réalité. Alors, les deux enjeux prioritaires, c'est l'approvisionnement de la France en médicaments et la production en France des 10 médicaments, donc on en a 900 qui sont sous référence, sauf que l'Inde produit pour 4 fois moins. Et aujourd'hui, Servier, pas plus bête qu'un autre, conscient de ce qui se passe,
et oui.
OK pour vendre. Aujourd'hui, sur la ligne de départ, vous avez, je crois, 4 acheteurs potentiels, dont 2 qui sont indiens.
Mais oui, justement.
Qui ont l'air particulièrement décidés. Donc voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on peut accompagner ça au mieux, limiter la casse, parce qu'il n'est juste question que de limiter la casse. Il n'y aura pas de victoire pleine de Roland Lescure sur ce point. Et on a un gouvernement qui est en survigilance sur la question et qui déplore, parce qu'il y a cet enjeu de réindustrialisation.
Et
l'enjeu de réindustrialisation, ça se passe tout en haut. C'est Emmanuel Macron qui l'a décidé et qui a pu le mettre en place il y a déjà 2 ans. Donc j'imagine qu'il y a le point de vue de Roland Lescure, mais il y a aussi la surveillance de tout en haut.
Ce qui est agaçant, c'est d'ailleurs Roland Lescure disait, on fait tous les efforts possibles pour faire venir en France des géants de l'industrie pharmaceutique. Il y a eu ce beau contrat avec Novo Nordisk, on essaie de faire venir AstraZeneca, on essaie de faire venir Pfizer, plus d'autres.
Mais on licencie beaucoup dans la recherche.
Et oui, et là on licencie beaucoup dans la recherche et on laisse partir Servier et les laboratoires Biogarant. Là, c'est un peu paradoxal quand même.
Alors il y a trois. Je vois trois choses. Une première chose, d'abord évidemment les résultats économiques de Servier 2022. 2023 qui n'ont pas été avec des pertes importantes, qui peuvent justifier a priori sur le terrain économique une vente, encore que je ne pense pas que ce soit le premier argument, mais donc il y a probablement des tensions sur les indicateurs de performance du groupe et la stratégie et les résultats. Deuxièmement, une question sur la définition même d'un secteur stratégique. Et ensuite, sur la question de la chaîne de valeur. Sur la question du secteur stratégique, c'est quoi un secteur stratégique? C'est évidemment un secteur qui assure une certaine souveraineté, mais dans plein de domaines.
On a étoffé la liste ces dernières années.
On a étoffé la liste. Alors, en général, c'est transport, santé, on sait, sont des secteurs, les télécommunications sont des secteurs stratégiques qui assurent une autonomie économique, parce qu'il y a beaucoup d'emplois, 1 300 000 dans le secteur de la santé. Une autonomie économique, une autonomie en termes de recherche et en termes d'innovation, comme vous l'avez dit également. Une autonomie parce qu'on importe moins, cette autonomie permet finalement de moins importer de l'extérieur, et puis surtout parce que ce sont des biens absolument vitaux pour la survie de l'économie. Donc la définition même du secteur stratégique impose aujourd'hui que dans le domaine de la santé on fasse attention. Et le dernier point, c'est la question des chaînes de valeur. Aujourd'hui, la Covid l'a démontré de façon flagrante, qu'on a des problèmes de chaînes de valeur, qu'on dépend trop de l'étranger sur des secteurs stratégique, et que quelque part, comme nous n'avons plus ce secteur stratégique, c'est là le paradoxe, eh bien nous devons dépendre, je dirais, d'une géopolitique aléatoire et qui aujourd'hui nous oblige à repenser réellement nos fleurons stratégiques. Donc on arrive à une conclusion qui est qu'il faut absolument reproduire évidemment en territoire France, mais il faut aussi, et c'est ma conclusion, mettre en place les mesures de protectionnisme intelligent. Il ne s'agit pas de fermer les frontières. J'ai jamais compris pourquoi on assimilait systématiquement protectionnisme et fermeture des frontières. Pour moi, c'est une aberration économique. Mais en tout cas, d'avoir un protectionnisme intelligent qui fasse effectivement que le dumping social mondial n'existe pas et qu'on ne soit pas toujours tenté par produire à l'étranger.
On a une minute, Xavier, avant vos avis. On donne toujours l'impression de courir après les événements. La Biogarant qui veut éventuellement, qui pourrait quitter la France. Enfin,
une minute, ça sera compliqué, mais je trouve que c'est un processus au fond très, très normal. Il n'y a pas de problème industriel du point de vue pharmaceutique en France. Je vais vous citer 2 chiffres. Vous prenez l'évolution de la production industrielle depuis décembre 2007, Lehman Brothers. On va dire moins 13%. Je prends la référence pharmaceutique, plus 50%. Je fais le même calcul depuis le début du Covid, c'est-à-dire depuis décembre 2019. La production industrielle française a baissé globalement de 3%. La production pharmaceutique française a progressé de quasiment 13 ou 14%. Donc le trend de la production industrielle pharmaceutique française ne fait que progresser à quasiment de plus de 50%. Donc il n'y a pas de problème. Il y a un déplacement dans la chaîne de valeur ajoutée. Et est-ce qu'il est intéressant de produire des produits génériques en France? Probablement pas. C'est-à-dire que l'équation économique. La question qui est posée en termes de souveraineté, c'est pas nécessairement d'avoir une base industrielle. La question, c'est d'avoir une sécurisation. Est-ce qu'on peut avoir une sécurisation? C'est ce qu'a mis en exergue la situation du Covid. En phase de crise, non. Donc comment on s'organise pour avoir une sécurisation sur des produits, on va dire, à faible valeur ajoutée? Qu'est-ce que c'est qu'un produit générique pour nos auditeurs qui ne le sauraient éventuellement pas? C'est un produit dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Et donc les laboratoires, sous certaines contraintes, peuvent s'approprier la production. La question sur l'Inde, c'est que ils ont une part de marché importante sur les génériques, mais probablement avec des conditions de prix qui n'intègrent pas les externalités négatives, notamment notamment du point de vue des émissions carbone. Au fond, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va substituer une base industrielle à faible intensité énergétique pour l'énergie consommée, et on va lui substituer, au fond, des produits génériques indiens qui vont être produits à base de charbon. Ça me pose question. C'est ça le problème. Et donc ça veut dire que la tarification des produits génériques en France n'est pas la bonne pour permettre à Servier de conserver... je suis trop long, désolé. Bon, il faut réintroduire une tarification qui intègre cette externalité négative. Et c'est pas le cas. Donc on a un problème de tarification sur les produits génériques en France. C'est ça que ça veut dire. Et une façon de résoudre, c'est de réaugmenter ces produits génériques.
Et ben voilà pour ce dossier que le gouvernement serait comme elle sur le feu. Voilà l'extra time. Effectivement, 30 secondes pour vos coups de gueule ou coups de cœur. Bah oui, c'est la règle impitoyable, vous le savez. Bah, Xavier, si vous avez la main, tiens, vous voulez ce que vous voulez la garder.
Oui, c'est un coup de cœur et un coup de gueule simultanément. C'est un coup de cœur. Vous savez, il y a une commission d'enquête sénatoriale américaine qui explore la problématique de Boeing.
Ouais.
Et il y a 4 lanceurs d'alerte qui ont déposé mercredi. C'est remarquable. Je suggère à nos auditeurs de l'écouter. Et l'un des lanceurs d'alerte, qui est quand même chef de production sur le 785 Dreamliner, a quand même dit, tout simplement, que prendre le Boeing aujourd'hui, c'était prendre un risque. Donc pour l'intégralité de la flotte. Donc ça veut dire que le processus de production de Boeing pose question. Et je trouve que c'est remarquable. En une heure...
Vous pouvez finir,
en une heure et demie de déposition, on a un résumé de la situation, de la dégradation des termes de sécurité de production chez Boeing. C'est remarquable.
C'était assez terrible, effectivement, ces auditions. Pascal Delima, les coups de gueule ou coups de cœur, 30 secondes, c'est à vous, Pascal.
Moi, indiscutablement, de dire qu'effectivement, le protectionnisme intelligent existe et qu'on n'est pas obligé de fermer les frontières pour avoir un protectionnisme sur nos avantages comparatifs, et qu'aujourd'hui, on pense beaucoup trop mondialisation et qu'on est en concurrence à tout va dans tous les domaines avec tous les pays au niveau mondial, et pour moi ça c'est vraiment ce qui peine en France, c'est d'arriver à construire nos avantages comparatifs et avoir un protectionnisme dans l'Union européenne qui soit ciblé par pays, par avantages comparatifs, et c'est comme ça qu'on arrive à faire du flux commercial.
Vaste débat. Samuel Botton, 30 secondes pour votre avis, mon cher Samuel.
On va changer, on va rester sur le sport. On est un peu moins de 100 jours des Jeux Olympiques. La semaine a commencé en fanfare sur RMC. J'ai trouvé le président, je ne m'y attendais pas, relativement clair sur le sujet, avec les bons et les mauvais points. Et puis après, j'ai lu les journaux puisque tout le monde s'empare du sujet. Et j'ai vu que ceux qui louaient des appartements de Airbnb commençaient un peu à faire la tête parce que la demande n'était pas forcément là. Et bien, c'est l'occasion toute parfaite de leur rappeler la loi de l'offre et de la demande, et peut-être que leur offre n'est pas suffisamment bien positionnée. Elle est peut-être même mercantile au possible, donc il serait temps de tous se remettre au diapason et de faire de ces jeux un vrai succès.
C'est vrai que ça commence un peu à décenter du côté de ceux qui pensaient
des hôteliers, des Airbnb, différents commerces, donc à voir ce qui va se passer.
Merci messieurs, Xavier Patrolin, Pascal Delima, Samuel Botton, merci d'être venu ce soir. Merci. Taylor Swift qui sort son double album aujourd'hui.
Votre chronique.
L'artiste qui fait... qui profite à l'économie américaine, disait la réserve fédérale américaine, vous vous souvenez l'année dernière.
J'ai lu un article aussi.
Formidable quand même. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. On aurait bien avoir un chanteur comme ça en France qui puisse doper l'économie.
Mais vous en avez deux. Vous en avez une qui va ouvrir sans doute les JO, c'est Aya Nakamura. Et vous avez
Je ne sais pas si elle booste l'économie française.
Il y avait 1 million de personnes en file d'attente pour l'annonce de ses concerts au Vélodrome et au Stade de France.
C'est vrai.
Le nouveau Johnny, comme j'aime l'appeler.
On verra si elle arrive à
Joule.
Booster l'économie américaine. Oui, Joule aussi, effectivement.
Une mèche
pour les. Pour les amateurs.
Le pain blond.
Merci messieurs, à très vite, 18h58. Dans un instant, les pionniers chez Fred Mazzella. On se retrouve lundi, bien sûr. Bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.